Il est l'heure d'accueillir maintenant une nouvelle invitée, c'est Sovane Delanoë. Bonjour Sovane.
Bonjour Christophe, bonjour Sonia.
Merci d'être avec nous, on peut le dire, argenteuillaise.
Oui.
Depuis combien d'années?
Depuis 36 ans.
Waouh. Et elle en a 37.
Bien sûr, c'est avec ça. 10 ans d'expérience.
Et bercée par l'animation, entre autres, hein, puisque une maman, Nadine Delanoë, a chanté notamment, fin des années 70, le célèbre générique de Maïa l'abeille.
Ah, mais elle n'a pas fait que le chanter, elle est Maïa l'abeille.
Oui, elle est aussi Maïa l'abeille, bien sûr. Et toi,
ça m'a valu de grands succès à l'école.
Ah, tu m'étonnes.
Et toi et vous, on va se tutoyer derrière. Quelques années plus tard, aussi, tu bosses sur la nouvelle série de Maïa l'abeille.
Ouais, j'ai eu la chance de faire le rôle de Willy, dans la version 3D de Maïa l'abeille.
Alors, Willy, c'est le criquet, je crois.
Non, Willy, c'est le bourdon.
Ah, c'est le bourdon. Le criquet, c'est...
Le criquet, c'est Flip.
Ah, c'est Flip.
Et, c'était Maurice Baquet dans la version des années 70, et dans la version animée, c'était Xavier Fagnon.
C'était la folie, en tout cas, cette période, hein, 60, fin 70, 80, même encore les années 90, on achetait les singles, on achetait les 45 tours de tous nos génériques de dessins animés. Ils sortaient à l'époque. Hein.
Ah bah, tout sortait à l'époque, mais il y a tellement de choses qui étaient vachement bien à l'époque.
C'était mieux avant.
Non, il y a plein de choses différent. Qui sont bien aujourd'hui, mais disons que tout étant dématérialisé, on a moins de... c'est moins tangible, quoi. Tout ce qu'on aime, on l'aime de façon un peu expéditive. Sur les réseaux et en scrollant sa vie.
Oh là 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 là, je ressors de temps en temps, moi, mes 45 tours d'Ulysse 31, Goldorak, Maïa l'abeille, je l'ai aussi. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Bon, après, j'ai un énorme coffret de Dorothée, parce que Dorothée
bien
aussi,
sûr.
Elle a eu sa gloire à un moment donné, elle a enregistré beaucoup de génériques. Hein.
Ah bah, énormément, oui. Si je ne me trompe pas, elle vient de refaire un gros concert, non?
Et, oui, je crois qu'elle a, tout à fait,
elle
c'était archi blindé. Hein.
Ça prouve vraiment une nostalgie pour cette époque.
Mais je ne crois pas que sur cette période, elle ait doublé forcément. Et là, depuis quelques années, on la demande. Elle a notamment doublé un robot dans un des derniers films, les Transformers. Elle était au casting aussi d'un autre film d'animation. C'est fou.
Ah bah oui.
Parce qu'elle aurait pu le faire à l'époque.
Oui, mais je crois qu'à l'époque, alors à l'époque, on n'avait pas vraiment ce système de ce qu'on appelle les star talent en doublage. Ouais. C'est venu... début des années 2000, je dirais, je sais même pas qui a été le premier star talent, mais c'est devenu un peu une mode de ça permet de mélanger les audiences, en fait. C'est-à-dire que t'as un film Disney, donc tu vas avoir des fans de Disney, mais si tu ajoutes l'audience, je sais pas, moi, d'une star comme ça, Jennifer par exemple, qui a doublé Maïa l'abeille dans le 35 dans le film, ou que ce soit je sais pas Patrick Bruel qui avait fait le prince d'Égypte, ou d'autres stars comme ça, tu cumules les audiences, t'as les fans de Disney d'un côté, les fans de Bruel de l'autre, ça augmente la visibilité d'un film. Et voilà, donc il y a des star talent bankable.
C'est énorme, parce que depuis quelques années on fait appel à eux.
Bien sûr.
Il y a quand même vous êtes toujours là. Je trouve qu'on vous met un petit peu moins, du coup, en lumière, et on met plus en avant ces personnalités qui parlent malheureusement plus au grand public et qui ont une grande notoriété.
Ouais, mais en même temps, justement, le fait qu'il y ait des stars, alors c'est un peu à double tranchant, parce qu'effectivement, ça nous enlève des rôles, on va dire. Mais malgré tout, je crois qu'on connaît davantage le monde du doublage depuis qu'on invite les caméras de télévision pour montrer les star talent en fer. Donc, ça a démocratisé la façon que les gens avaient de voir le doublage. Avant, c'était vraiment quelque chose de très mystérieux. Personne ne savait vraiment comment c'était fait. Il y avait des reportages très, très rares. Il y en a eu dans Télé 7 jours, des choses comme ça à l'époque, avec quelques photos des comédiens pour le Muppet Show, les choses comme ça. Mais c'était pas très fréquent. Alors qu'aujourd'hui, le fait qu'il y ait eu des stars qui fassent du doublage, ça a permis aussi d'inviter les caméras sur les plateaux. Et du coup, on sait à quoi ça ressemble. Et ça a créé aussi un véritable engouement autour de certains de mes camarades. Il suffit de voir le nombre de followers que peuvent avoir des comédiens comme Donald Renew ou comme Dorothée Pousséo.
Alors Dorothée Pousséo, moi j'ai rencontré il y a quelques années, c'était pour le film Ralph Lacasse.
Bien sûr.
Puisqu'elle prête sa voix au personnage Vanellope. Et j'avais demandé à Disney justement si je pouvais faire une interview de Dorothée Pousséo, qui n'avait pas... pas forcément aujourd'hui cette grande notoriété qu'on connaît. Et on m'avait dit oui, et je crois que j'étais un des seuls journalistes à avoir 30 minutes avec elle, parce que je voulais absolument m'entretenir avec elle et parler de son personnage, parce qu'il faut savoir que Ralph Lacasse, c'est un acteur très connu, c'est Xavier François de Maison.
François-Xavier de Maison.
Donc là, il y avait une vraie promo autour de lui, il y avait des séances de 5-7 minutes où les journalistes s'enchaînaient pour faire une interview avec lui. Et moi, j'ai demandé à Disney, est-ce que je peux pas rencontrer plutôt celle qui est en deuxième plan, en quelque sorte.
Bah, c'est
et
tout
on m'avait
à ton
dit
honneur.
Oui, et j'étais le seul, et j'étais content, parce que je lui ai posé beaucoup de questions. Il faut savoir qu'en règle générale, ces échanges se font un peu à l'américaine, hein. Sur une journée, une matinée, il y a 50 journalistes, et puis on interroge comme ça à la chaîne de 3 personnalités. En tout cas, beau parcours, puisque ça continue encore aujourd'hui en tant qu'un peu directrice artistique, formatrice.
En tant qu'adaptatrice, beaucoup. Comédienne encore un peu quand on m'appelle. C'est toujours avec grand plaisir. Beaucoup adaptatrice, c'est devenu en tout cas dans le milieu du doublage le gros de mon activité. Alors formatrice, c'est un bien grand mot, parce que formatrice, ça impliquerait organisme de formation, école, ou tout ça, et c'est pas mon cas, mais oui, je prends plaisir à transmettre voilà mon savoir-faire. Je donne des cours particuliers aussi bien à des comédiens que qui donc ont envie parfois d'aller faire derrière des formations plus officielles, on va dire, et que je prépare un peu à ces formations ou que j'entraîne après les formations quand ils n'ont pas encore eu beaucoup de boulot mais qu'ils ont besoin de pas perdre la main, ben je les récupère après, ou des gens qui ne sont pas comédiens et pour qui le doublage devient un terrain de jeu, un peu comme on fait du théâtre en amateur ou comme on fait de la poterie ou comme on fait de la danse. C'est pas parce que c'est un métier que ça peut pas aussi être un loisir qui permet d'abord d'en apprendre beaucoup sur soi, parce que c'est un, bah Sonia peut en témoigner parce qu'elle est venue faire deux cours.
Oui, elle a testé.
Donc c'est peut-être à elle de dire ce que ça apporte aux gens.
Alors, pardon, oui. Tu vas poser ta question dans un instant. Tout le monde, de toute façon, peut prétendre à voilà, si on apprend, on a tous une voix particulière de toute
Alors,
façon.
On a tous une voix particulière. Tout le monde peut s'essayer à l'exercice, mais tout le monde ne sera pas crédible, parce que faire du doublage,
oui, c'est un jeu d'acteur,
d'un point
de comédien.
Voilà, c'est vraiment un métier de comédien.
Ouais.
C'est-à-dire que si on n'a pas de, je dis pas qu'on peut pas apprendre sur le tas, ce serait pas juste, parce que moi j'ai commencé, j'avais 5 ans, autant dire que j'avais pas fait le conflorant à 5 ans. Hein. Donc j'ai appris sur le tas, et c'est comme ça que je me suis formée à la comédie. Mais j'ai des lacunes dans d'autres disciplines de mon métier, forcément.
Et elle chante aussi Sauvane. Hein, on va écouter
elle chante
dans un
Sauvane.
Instant aussi. Pardon.
Merci. Oui, tout le monde peut s'essayer à l'exercice. Tout le monde ne peut pas en faire son métier, parce qu'effectivement, pour en faire profession, il faut être comédien. Et vraiment, c'est une discipline très particulière dans laquelle on nous demande de trouver très rapidement notre personnage, la vérité d'un sentiment, d'une émotion. Donc ça demande de déployer toute une boîte à outils de comédien, vraiment.
On reparlera aussi du métier, parce que beaucoup se posent la question, est-ce que ça va durer dans le temps à cause de l'IA, hein, entre autres.
Hein. Vaste question.
Oui, non, mais moi je voulais juste dire à tous les auditeurs, voilà, qu'il faut pas hésiter à contacter Sauvane, parce que moi je l'ai fait, j'ai fait 2 séances dans son studio, et alors outre l'émotion de travailler avec quelqu'un qui a bercé ton enfance, parce que moi j'ai toujours la voix de Fievel dans la tête, mais je ne suis pas comédienne, et franchement j'ai en une heure et demie,
ouais.
J'ai appris énormément de choses, et je trouve que ça mobilise beaucoup. C'est exactement ce que tu dis sur soi, sur les émotions, sur ce qu'on. Voilà, j'ai adoré l'expérience. C'est fait avec beaucoup de bienveillance, et j'aimerais bien emmener mes enfants aussi, parce que je pense que c'est un exercice qui peut aussi.
À partir du moment où un enfant sait lire,
on peut y aller. Bah
ouais.
Voilà. Et je trouve que c'est un exercice qu'on devrait proposer même dans les écoles régulièrement, ou même dans les boîtes en team building, parce que d'abord on peut faire ça à plusieurs.
Bien sûr, c'est même plus intéressant de le faire à plusieurs quand on a une réplique, c'est intéressant en fait, c'est un exercice qui au-delà du travail de comédien développe l'empathie, parce qu'il faut comprendre le sentiment de l'acteur que tu doubles ou de l'actrice que tu doubles, il faut comprendre le sentiment, être capable d'en être le miroir et de le trouver en soi, d'aller chercher le sentiment vrai. Donc c'est vraiment une histoire d'empathie, c'est une histoire d'écoute, de regard, étonnamment, même si ça ne s'entend pas.
Puis après, derrière, on devient moins timide, on parle oui, peut-être un peu mieux aussi parce que ça aide à l'articulation.
Oui, beaucoup, bien sûr. Bien sûr, moins timide, je sais pas. Oui, je crois, si, peut-être un petit peu. En tout cas, à partir du moment où on donne notre voix à quelqu'un d'autre, on n'a pas un frein de pudeur. Il y a une pudeur, mais qui n'est pas vis-à-vis de soi.
Mais là, on se lâche, en fait.
Ouais, on se lâche beaucoup plus parce qu'il faut qu'on soit crédible dans l'image. Donc, le plus drôle, c'est de faire du dessin animé aux gens parce qu'on se rend pas compte de l'énergie que ça demande.
C'est incroyable.
Et en fait, les gens sont timides. Donc, enfin, surtout quand ils sont pas comédiens, les gens sont un peu timides. Donc, ils parlent à demi-voix, et s'aperçoivent que ça sort pas du tout de l'image. Donc, s'ils veulent avoir la satisfaction de voir leur voix sortir de l'image, ils sont obligés de se lâcher. Donc, ça ouvre des portes.
Sovane Delanoë est toujours avec nous sur IDFM Radio. Dans un instant, on écoutera ta chanson Facile. Est-ce que tu peux nous faire éventuellement, est-ce qu'il reste quelque chose de Fivel en toi ou pas?
Alors, en fait, c'était ma voix quand j'avais 6 ans, donc c'est un peu compliqué. Non, je la retrouve parfois. Alors, je peux essayer, hein, mais je vous promets rien. Quand je chante la chanson de Fivel, parce que les aigus, ils sont encore là, donc je peux essayer et ça ferait quelque chose comme très loin là-bas. Sous la lune d'opale, quelqu'un se sent triste et pense à moi ce soir.
Merci beaucoup, bravo.
Bravo,
ça y est,
j'ai pleuré.
Et le Nouveau Monde, c'est sorti en 1986 et nous sommes avec la voix de ce personnage, petite souris complètement perdue, hein, qui va errer dans les rues. Elle va se faire quand même des amis, bien évidemment. C'est une belle aventure, une belle histoire d'amitié, de partage. Et c'est vrai qu'on fond quand on voit ce personnage. Hein.
Ah non, mais ça me met, tu vois, comme quoi l'émotion que peut procurer une voix quand même. Moi j'ai la chair de poule et je ressens quand je regarde des dessins animés enfant. Merci Sovane.
À tout de suite Sovane, à tout de suite Sonia, c'est toujours la matinale. Start with something new. Try hardly does it anymore. Can't drink with the pain anymore. Oh, oh, all right. I'd rather be a fool than believe in someone. All the songs that you love all along. Lost in the dark, 'cause you stole the sun. I take your mistakes over missing you always. Am I out of place? I'll be when I'm supposed to be. Oh, I'm telling you. Rather be a fool than believe in someone. Yeah. sommes toujours ce matin avec Sovan de Danoé. Merci, nous avons le grand privilège d'être avec cette grande dame du doublage qui a fait rêver les petits et les grands. Elle a même été sur le casting de ce dessin animé. Écoutez.
Tout a commencé avec un mystérieux bracelet. C'est super d'avoir super pouvoir à son poignet. Il est tellement cool qu'avec lui on s'ennuie jamais. Ben 10.
Le générique de Ben 10, Sovan.
Ouais.
Qui c'est qui chante?
Ah, je ne sais pas. En tout cas, c'est pas moi.
Je suis désolé, voilà, c'est pas Sovan qui chante, mais tu as prêté ta voix à plusieurs ou un personnage sur...
J'ai prêté ma voix à Ben 10.
Ah, Ben 10,
en
carrément.
En fait, ouais, depuis le... Il y a eu plusieurs séries de Ben 10, là, ça a duré quasiment sur pas loin de 15 ans, la série. Une première série qui était sur Cartoon Network, et après, qui a duré un certain temps. Après, il y a eu un vide sans série, et puis une nouvelle série qui s'est créée, où il y a d'abord eu Ben 10 petit, après d'autres séries, Ben 10 Omniverse, etc., où Ben 10 était plus grand, et où là, si je ne me trompe pas, et je voudrais pas dire de bêtises, il me semble que c'est Alexis Thomasian qui doublait Ben 10 plus grand, et donc je suis la voix française d'Alexis Thomasian, c'est pas mal. Et même beaucoup plus vieux, où c'était Daniel Beretta qui doublait le rôle de Ben 10 adulte. Donc on s'est partagé le rôle, et je suis revenue après dans la série où est revenu Ben 10 enfant. Donc
tu as fait beaucoup de voix d'hommes en règle générale depuis que tu as démarré dans le doublage. Je pense notamment à Brigitte Lecordier, qui a une petite voix très rigolote, très amusante, et elle l'a fait souvent des hommes, hein, comme notamment dans Dragon Ball, comme aussi oui
bien sûr.
Voilà. Et ces deux personnages, c'est des personnages masculins.
Hein. Oui, Brigitte a fait énormément de petits garçons. Elle a fait des petites filles aussi, puisqu'on a même fait une série ensemble qui s'appelait Providence, qui passait sur TF1, où je faisais sa maman. elle a très souvent été... On a très souvent été frères et sœurs, on a très souvent été frères et frères, et là, pour le coup, j'étais sa mère. Mais oui, comme elle, j'ai fait beaucoup de petits garçons. Alors, au départ, c'était pas du tout mon emploi, parce que je doublais des rôles enfin, quand j'étais toute petite, si, j'ai fait des petits garçons et des petites filles, parce que les voix d'enfants avant la mue sont très similaires, donc c'était pas vraiment un problème. Après, j'ai doublé des rôles de jeunes filles, de femmes, que ce soit Mercredi dans La Famille Adams, la fille de Bruce Willis dans Le Dernier Samaritain, toute une série qui s'appelait American Wives, où je doublais une femme, Providence, où je doublais une femme, Practice, enfin plein de séries comme ça. Et puis, un jour, on m'a fait faire des essais sur un dessin animé qui s'appelait Crypto le Super Chien, où je faisais donc le maître de crypto, qui s'appelait Kevin. Et ça a plu. Et du coup, on m'a beaucoup, beaucoup fait faire de petits garçons. Et c'est un petit peu la loi difficile de ce métier. C'est que quand on plaît dans un emploi, bah, on nous emploie énormément dans cet emploi. On oublie qu'on en a d'autres. Et puis, bah, arrive un moment où on lasse un petit peu les clients qui disent « Ah bah ouais, non mais c'est bien, mais on l'a déjà entendu dans ça, dans ça, dans ça. On va passer à quelqu'un d'autre. » Du coup, je suis, comme qui dirait, passée de mode. Mais bon, ça commence à faire un certain temps que je suis passée de mode. Donc peut-être je vais revenir à la mode bientôt.
C'est triste, c'est dommage. Pour revenir sur Ben 10, du coup, c'est un univers assez extraterrestre. Hein.
C'est
des
ça.
Aliens. Donc du coup, tu te mets avec ce jeune garçon dans quel état d'esprit finalement? T'es plus chez nous, t'es plus sur la planète Terre, t'es autre part. Si, quand même, il vit sur la planète Terre.
Oui, il vit sur la planète Terre.
Mais il y a plein de bestioles qui arrivent.
C'est ça, il a juste un bracelet extraterrestre qui lui donne des pouvoirs et qui le fait se transformer en plein d'extraterrestres différents, qui en général ont des voix beaucoup plus grosses que moi, parce que c'est des très gros monstres, donc c'est pas moi qui les fais. Voilà, c'est ça. Donc c'est pas moi qui les fais, mais non, ce qui est très amusant dans Ben 10, c'est le côté un petit peu frondeur, un petit peu espiègle. C'est un caractère que j'aime bien, qui était très agréable à faire.
En tout cas, merci d'être avec nous. On va écouter la chanson Facile dans un instant.
Merci.
Tu as édité deux chansons là dernièrement. Hein.
J'ai sorti deux singles en 2023, en fait. Le premier s'appelait Les Mères Adragantes, le deuxième s'appelle Facile. Et je suis en train de travailler à la suite de ce qui fera un EP, en fait. Voilà, donc j'ai quelques maquettes en cours d'orchestration et d'arrangement, voilà.
Tout se passe bien ce matin puisque nous sommes en compagnie de Sovan Delanoé. Merci encore une fois d'être avec nous, valdoisienne, depuis, on l'a dit...
37 ans.
36 ans.
36 ans,
c'est presque 37 ans.
C'est ça.
Et comment tu es arrivée justement sur le Val d'Oise sauvage?
Au départ, on était dans les Hauts-de-Seine, on était à Colombes, dans un appart. Et puis, j'étais un enfant un peu chétif, on va dire. Ma maman trouvait que c'était mieux que je grandisse dans une maison. Donc voilà, on s'est mis en quête d'une maison parce que c'était le bon moment pour trouver ça. Et on est parti avec nos cartons. On a traversé la Seine et on a trouvé une très jolie maison à Argenteuil et on s'est installé là. Moi après je suis partie, j'ai fait une infidélité au Val d'Oise pendant un an ou deux pour partir vivre à Paris et je suis revenue quand j'ai eu les moyens d'acheter aussi. Je suis revenue pour acheter dans le même coin et j'ai tellement acheté dans le même coin que j'ai acheté dans la même rue une première maison que j'ai revendue pour en acheter une autre qui était encore plus près de ma maison où j'avais grandi puisque c'était sur le trottoir d'en face et tellement, tellement bien ici que j'ai même traverser la rue pour récupérer la maison qui est celle qui jouxte celle de ma maman. Donc en fait on a deux maisons sur le même terrain, on a enlevé les clôtures et voilà, elle a sa maison dans laquelle j'ai grandi et la mienne dans laquelle mon fils grandit aujourd'hui. Ma maman va très bien.
Elle continue un petit peu ou
Ma maman fait beaucoup d'adaptations de doublage, autant que moi, parfois plus même.
On rappelle, hein, c'est Nadine Delanoë qui a notamment prêté sa voix au personnage Maya l'abeille. Hein.
Oui, et qui a adapté 15 ans la série Urgence, par exemple.
Oui, aussi, c'est vrai.
Voilà.
Moi, j'ai pas bien préparé.
Non, bah, je t'en prie.
Nadine, hein. J'ai plus travaillé sur toi quand même.
Je t'en prie. Mais elle a une belle carrière.
Peut-être un jour.
Ah, mais je pense qu'elle sera ravie.
Donc, tu connais énormément de monde dans ce milieu-là. Tu as côtoyé les plus grandes voix de Bruce Willis à Brad Pitt, en passant par Tom Cruise, j'ai envie de dire.
Ah, bah oui.
Tom Hanks, les regrettés aussi, puisqu'il y en a quelques-uns qui sont partis vraiment.
Beaucoup ces derniers temps, beaucoup trop.
Dernièrement,
beaucoup trop.
De un an ouais. Et demi, des grandes voix qui sont parties. Et on les a pleurés. Et derrière, ça doit être très compliqué de trouver vraiment une voix qui colle à ces acteurs. Parce que nous, en tant que Français, on s'attache. On se dit, Tom Cruise, il a cette voix-là.
Oui, bien
et
sûr.
Du jour au lendemain.
Bon, Tom Cruise va bien. Hein.
Oui, lui, il va bien. Mais le jour où Tom Cruise n'a plus cette même voix française, on est complètement un peu perturbé.
Oui, bien sûr. C'est vrai. On a, comme quoi, c'est vraiment très, très important le travail des comédiens de doublage, en fait. Parce que ça crée un lien. En fait, le doublage, c'est un métier qui est très étrange parce que c'est un métier de l'ombre. Et en même temps, c'est le métier qui permet de passer. On fait un métier de passeur, en fait. On transmet une culture étrangère aux Français. Alors, bien sûr, t'as toujours un snobisme de gens qui disent « Moi, je regarde que la VO ». Sauf que, si tu regardes la VO, à moins d'être bilingue, complètement bilingue, tu regardes la VO avec des sous-titres. Et quand tu regardes la VO et les sous-titres, tu lis les sous-titres, donc tu n'as pas l'intégralité du cadre voulu par le réalisateur. Pour voir un film comme il a été voulu par son réalisateur, il faut le voir doublé. Et l'avantage du doublage, c'est que la musicalité de la langue, elle passe pas pareil en anglais et en français. On n'a pas du tout la même musicalité. Le plus flagrant, c'est quand tu regardes des films japonais. Eux, quand ils te disent « je t'aime », t'as l'impression qu'ils vont te tuer. alors que nous, on le dit pas comme ça. Donc il y a vraiment, on passe une musique qui est la nôtre, qui est séduisante à nos oreilles et qui nous permet de profiter d'une œuvre avec des références qui sont plus européennes ou plus françaises, avec sans tomber dans la francisation des noms comme ça a pu être fait dans les années 60 où tu regardais des westerns avec des Jean-Michel et des Jean-Pierre. C'est vrai, hein, je plaisante pas, ça a existé. Mais malgré tout, oui, il y a ce travail de transmission qui est fait d'abord par les adaptateurs qui adaptent les références et les repères culturels et les comédiens derrière qui font de leur mieux pour passer une œuvre en fait. C'est ça notre mission et notre travail.
C'est beau ce métier. Ça fait rêver, en tout cas nous.
Ça fait rêver le grand public.
C'est passionnant, je ne sais pas si ça fait rêver en règle générale.
Ça fait rêver.
Oui, si, ça fait rêver aussi le grand public, mais nous qui faisons déjà de la radio, donc on ne nous voit pas forcément, même si maintenant il y a des caméras partout dans les studios. Mais c'est vrai que c'est fascinant ce milieu-là.
Ah oui, complètement. Complètement. C'est difficile pour moi de dire ça parce que je suis tombée dedans quand j'étais petite. C'est comme Obélix dans la marmite. J'ai commencé, j'avais 5 ans, donc j'ai vraiment grandi dedans et je m'aperçois en vieillissant de ce que ça peut véhiculer d'imaginaire et de voilà tous les films qu'on se fait en imaginant les acteurs. Alors non, on ne connaît pas forcément les acteurs qu'on double, on les rencontre assez rarement, on voit pas forcément les films avant. Enfin, il y a plein de questions que se posent des gens auxquels je pourrais répondre,
mais c'est vrai que c'est un métier. Vous avez un écran en face de vous, mais vous n'avez pas forcément vu l'intégralité.
Non, c'est assez rare.
Vous connaissez quand même le synopsis, l'histoire, la trame.
Oui, oui, on arrive. Déjà, parfois, on double pas le film ou la série dans l'ordre, hein, parce qu'il y a des questions de planning, pour mettre les comédiens ensemble quand on a la chance de travailler encore ensemble, ce qui est plus rare depuis le Covid. Mais quand on a la chance de travailler ensemble, il faut mettre les emplois du temps ensemble et dire peut-être on va commencer par une scène de fin avant de faire les scènes du début. Heureusement, on a des directeurs artistiques qui nous expliquent l'histoire, les tenants et les aboutissants des choses. On voit la scène en VO, donc en version originale, une fois, deux fois, trois fois si vraiment on a le temps. Et puis après, on est lâché dessus et vas-y, rendez-vous au tas de sable, quoi. On essaye de faire de notre mieux avec tout notre petit cœur et tout ce qu'on a de savoir-faire et de savoir-être.
Et à 5 ans, c'était quelle voix ? C'était
Alors le premier doublage que j'ai fait, c'était un film. Alors pour rire, le premier doublage que j'ai fait, j'avais 2 ans et demi en fait.
Ah
ouais, c'était un film français. Oui, c'était un. Alors justement, tu crois pas si bien dire, c'était un film français qui s'appelait Voulez-vous un bébé Nobel avec Darry Cole. Et en fait, dans ce film naissait un bébé surdoué et une fois sorti du ventre de sa mère, il parlait quasiment et donc il avait une phrase qui était bonjour monsieur le professeur, comment allez-vous, et il fallait une voix très fraîche pour le faire et c'est tombé sur moi parce qu'au départ le directeur artistique avait appelé ma maman qui lui a dit mais je fais pas de voix d'enfant, je fais des voix d'abeilles. Mais pas de voix d'enfant. Et il m'entendait gazouiller derrière en jouant au Lego. Fait, mais j'entends derrière toi une voix très fraîche. Enfin, oui, c'est ma fille, elle a 2 ans, c'est très frais. Est-ce qu'elle est libre tel jour? Est-ce que ça t'amuse d'aller faire ça? Oui, ça m'amuse. Donc voilà. Je suis allée faire ça, j'avais 2 ans et demi. Mais après, j'ai travaillé beaucoup plus régulièrement à partir de 5 ans. Et le premier film que j'ai fait, c'était un film qui s'appelait Boat People, Passeport pour l'Enfer. Donc c'était pas très gay. Et les directeurs artistiques ont eu la bienveillance de couper les images pour ne pas que je voie des images qui étaient très traumatisantes. Je crois que j'ai vu ce film, moi, 20 ou 25 ans plus tard. Hein, j'ai pas osé le voir avant. Donc,
Ah mais là, c'est compliqué. Ouais. Du coup, bon, t'étais.
On m'explique la situation.
Parce qu'il faut quand même un visuel, une image. Il faut une situation quand même.
Moi, on m'a expliqué, par exemple, il y a une scène où le petit garçon que je doublais était sur la tombe de sa maman et où il disait au revoir maman. Et on m'a expliqué que sa maman était partie, qu'elle ne reviendrait jamais, mais on m'a pas dit de mots traumatisants ni rien, donc on a beaucoup pris soin de moi sur ce film. Il a fallu que donc j'exprime la tristesse d'un enfant qui savait qu'il n'allait jamais revoir sa maman. Et très sincèrement, c'est facile hein, quand on a 5 ans et qu'on vous dit tu vas jamais revoir ta maman, comment tu dis au revoir? C'est facile. Donc mais oui, on t'explique une situation, alors quand t'es tout petit, on te l'explique avec des mots qui sont à ta hauteur. Mais après, j'ai doublé beaucoup de films d'horreur où on m'a pas enlevé les images et j'étais pas bien vieille quand même. Mais voilà, on sait que c'est du cinéma aussi, donc c'est amusant.
Nous sommes toujours avec Sovan Delanoë sur IDFM Radio. On parlera notamment dans un instant de ton podcast Parlons Chansons.
Merci.
En plus, tu ne fais pas que du doublage, voilà. Tu n'es pas que adaptatrice de doublage. Il y a aussi plein d'autres choses. Et aussi cette chanson que nous découvrons maintenant sur IDFM Radio qui s'appelle Facile. Il est 8h45.
Coucher de soleil sur les îles, moi j'en ai pas besoin. Ton pull sur mes épaules fragiles, je suis bien. Rio, Venise ou la Sicile, ça nous sert à rien. Dans tous nos voyages,
je flanche. Ton piège s'est vite refermé. À quoi bon chercher la petite bête, se prendre la tête? C'est tellement facile de t'aimer. Paraît que les diamants plaisent aux filles. Tu m'as pas eu comme ça. Je me fous pas mal de tout ce qui brille. Tu es là. Scandale, people et magazine. On veut pas jouer à ça. On sort pas d'une pièce de racine. Toi et moi, c'est comme une évidence. Faut pas bouder sa chance. Un peu de jour bleu, de nuit blanche, et je flanche. Ton piège s'est vite refermé.
Feu d'artifice sur ce morceau de Sauvane Delano est facile. Donc c'est sorti il y a un petit peu plus de 2 ans déjà.
C'est ça.
Donc c'est blues, jazz, il y a un petit air d'accordéon.
Oui, joué par Roland Romanelli.
Et donc ce single, cette chanson, c'était une envie depuis longtemps
alors,
d'enregistrer, de faire un album, un EP peut-être dans un premier temps. Il y a eu quand même une période très intense avec le métier de doublage, du coup peut-être pas forcément le temps non plus d'enregistrer.
Alors
des
pas
chansons.
Beaucoup le temps, et puis pas un gros syndrome de l'imposteur de se dire est-ce que vraiment je peux le faire. En fait, j'avais commencé moi à écrire des chansons au tout début des années 2000. J'ai eu la chance de faire les rencontres d'Astafor avec Francis Cabrel, où ça m'avait vraiment donné un petit peu le virus. Juste après, j'avais écrit un opéra rock qui s'appelait Providence, que on avait produit avec une première structure qu'on avait montée et qu'on a joué au Trianon en 2003. Et après, et c'est passé pour plein de raisons, une grande période dans laquelle j'ai pas écrit du tout. Et quand j'ai eu mon fils qui s'est avéré devenir musicien très vite et très tôt, je l'ai vu commencer à réaliser un petit peu ses rêves de musique très très jeune. Et je me suis dit, merde, si lui il le fait, de quel droit je lui dis de poursuivre ses rêves si j'essaie pas de poursuivre les miens? Donc je me suis dit, allez, c'est parti, on enregistre déjà ces chansons et j'en ai quelques autres dans les tiroirs, pas autant que je voudrais parce que je manque de temps pour les écrire, mais oui, la musique et la chanson, c'est un milieu qui m'attire énormément et dans lequel je suis très bien et je travaille avec énormément de musiciens. Parce que je travaille beaucoup à la SACEM où je suis à la commission des programmes. J'ai été pendant 3 ans à la commission mémoire et patrimoine, donc pour défendre voilà le répertoire des artistes, des auteurs et des compositeurs français. Et je suis aussi secrétaire générale adjointe de l'Union nationale des auteurs et compositeurs. Donc voilà, c'est un milieu auquel je tiens particulièrement, dans lequel je suis très engagée et qui mérite aujourd'hui qu'on s'engage beaucoup pour lui. Mais le doublage aussi, hein, on est en danger avec les mêmes. Voilà, les mêmes choses qui nous pendonnaient.
Oui, il y a des pétitions, elles continuent à circuler au sujet donc de l'IA qui pourrait effectivement changer la donne par rapport à ce métier de doublage. Est-ce que c'est déjà le cas? On le voit déjà avec certains artistes musicaux.
Ouais, alors l'IA change la donne dans beaucoup de domaines, aussi bien dans l'audiovisuel et donc dans le doublage que dans la musique. On dit que à l'horizon 2028, c'est 21% de perte de revenus pour les artistes de l'audiovisuel et 24% de perte pour les artistes de la musique, sachant que les IA génératives vont générer entre 4 et 5 milliards par an de bénéfices, ce qui correspond au poids économique des artistes indépendants, par exemple diffusés sur TuneCore. Donc c'est des sommes énormes.
TuneCore, c'est quoi, pardon ?
TuneCore, c'est un agrégateur de contenu par lequel les indépendants passent pour mettre leur musique en ligne. Par exemple, il y a TuneCore, il y a DistroKid, il y en a d'autres. Mais TuneCore a sorti ses chiffres hier et les indépendants représentent 5 milliards de dollars de chiffre d'affaires, on va dire. Et 5 milliards, c'est ce que l'IA génère aussi par an en audiovisuel. Et 4 milliards en musique. Donc, c'est dire la place que ça prend. Il y a plusieurs problèmes. C'est-à-dire que pour les artistes, il y a une peur d'être remplacé, effectivement, par l'IA. Qui autant en musique est assez évidente tout de suite parce que un tiers des titres qui sortent quotidiennement sur les plateformes, c'est de l'IA, un tiers. 28% annoncés par Deezer, et c'est les seuls qui donnent leurs chiffres, hein. Bien sûr, Spotify ne les donne pas. En audiovisuel, c'est un peu plus tendu, un peu plus compliqué pour eux d'arriver à une perfection parce que, comme je disais, comme l'IA singe. Ce qu'on fait, elle va, si elle traduit par exemple, je sais pas, la voix de De Niro en français et qu'elle met des mots français avec la voix de De Niro pour traduire ce qu'il fait, elle va le traduire avec la musique de De Niro, donc sa musique américaine, donc on n'aura pas forcément les inflexions et l'émotion, sachant que émotion et IA, ça ne va pas ensemble puisque l'IA ne sait pas ce qu'elle fait, elle ne pense pas, elle a rien à dire. L'IA, comment ça marche simplement, c'est qu'elle se nourrit, elle va piocher des données sur nos œuvres, que ce soit nos œuvres de créateurs, auteurs, compositeurs, ou sur nos voix et nos interprétations d'artistes-interprètes. Elle intègre tout ça, elle ingère tout ça. Ça, c'est ce qu'on appelle l'input. Après, il y a l'output. L'output, c'est pas des œuvres, c'est des produits algorithmiques qui sont faits par statistiques. C'est-à-dire que quand tu fais une invite, un prompt à l'IA, tu lui dis « je veux ça », elle va dire « alors, moi, quand on me demande ça, ben ça correspond à ça, 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 ça. » Elle va de te donner la meilleure réponse statistique à ta question. C'est pas une œuvre, c'est un produit algorithmique qui est fait à partir de nos œuvres, donc qui vole notre travail sans notre consentement et sans rémunération juste. Ce qui est demandé aujourd'hui par les sociétés de gestion collective, que ce soit l'ADAMI pour les artistes interprètes ou la SACEM pour les auteurs, qui ont toutes les deux fait ce qu'on appelle un opt-out, c'est-à-dire qu'en fait, on a signifié, c'est très symbolique, que l'IA n'avait pas le droit de piocher dans nos œuvres, mais c'est très symbolique, elle le fait quand même. On demande de la transparence, c'est-à-dire on demande à ce que l'IA dise ça, c'est un produit IA et dedans il y a ça, 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 ça. On demande de la transparence, on demande des licences pour que l'emploi de nos œuvres soit rétribué et redistribué entre les créateurs qui sont pillés. Quand on demande ça à l'IA, l'IA dit « ah oui, mais non, secret professionnel, on peut pas vous dire ce qu'il y a dedans ». Ce à quoi les juristes, dont Alexandra Bensamoun, qui est à l'université Paris-Saclay et qui est spécialiste de ce sujet, dit « mais nous, on vous demande pas la recette, on vous demande les ingrédients ». Et ça, ils le savent très bien. Ils savent ce qu'ils ont ingéré et ils savent ce dont ils se sont servis pour ressortir un produit. Donc, il faut absolument que le législateur mette des règles précises parce que là, c'est un droit qui est spolié. Le droit d'auteur est spolié. Le droit, c'est quand dans une démocratie, on prend un droit à une... à des artistes, c'est ou à une communauté quelle qu'elle soit, on peut se demander quel est le prochain droit qui va tomber. Mais ça, tu parlais tout à l'heure de mon podcast. J'ai interviewé ce mois-ci Brice Homme, qui est le vice-président de la SACEM, et qui le dit beaucoup mieux que moi.
Oui, j'ai juste cité le podcast. On va en reparler d'ici quelques minutes. En tout cas, c'était assez complet là sur l'IA qui va venir du coup interférer votre métier du
doublage. Il faut que le public réagisse et dise nous, on veut pas d'IA, quoi. On veut de l'art bio, humain, fait par des humains, pour des humains.
Et pour revenir sur ta musique, il y a aussi une autre chanson qui est sortie aussi sur la même période, hein, 2023. Tout à l'heure, on a écouté Fragile, c'est Les Mères
Adragantes.
Hein. Là, c'est un autre style. On est moins sur blues, jazz, on est plutôt sur du Michel Berger, France Gall.
Oui, c'est ce que dit tout le monde, effectivement, c'est plus pop, ouais, c'est un peu pop rock, mais plus pop que rock d'ailleurs, et ce qui arrive derrière, mais c'est aussi le temps de tâtonner, voilà, de trouver son univers musical, et aligné avec ce qu'on est, ce qu'on a à dire. Là, ce qui arrive derrière est un peu plus, ça reste pop, mais c'est un peu plus rock, voilà.
On va écouter un extrait, justement, Sauvane Delanoë sur IDFM Radio.
À force de te voir dans mes insolations, à force de sable, j'ai peut-être un grain, jusqu'à plonger dans un mescal un peu mesquin, transitant dans trop d'hésitation. Je pense à mon imparfait dans ton parfum, j'ai dû me tromper de destination et je pars sur les...
Les Mères Adragantes, un court extrait d'une des chansons de Sauvane Delanoë. Ces deux chansons, de toute façon, Fragiles, et celles-ci sont disponibles un peu partout.
Oui, sur toutes les plateformes.
Il y a un clip aussi très sympa pour...
Pour Les Mères Adragantes.
Là, c'est vacances,
c'est... Oui, le clip est sympa, il a été réalisé par Erwan Villard.
C'est la plage, voilà. Etc. Une info insolite.
Oui, relative au doublage.
Alors voilà,
j'ai voulu faire honneur à notre invité.
Sauvane Delanoë.
Et vous faire partager une information que je ne connaissais pas. Alors, est-ce que vous savez quel est le comédien de doublage français qui prête sa voix à Brad Pitt?
Moi, oui.
Sauvane. C'est qui?
Jean-Pierre Michael.
Voilà. Et il y en a un autre. Moi, j'ai trouvé ça comme info. Damien Witeka,
oui, qui est la voix plus habituellement la voix française de Leonardo DiCaprio.
Voilà, et j'ai trouvé aussi, et de Ben Stiller aussi.
Oui.
Ce qui veut donc dire qu'un même comédien peut à la fois incarner Brad Pitt.
Bien sûr.
Dans un registre un peu, aventurier, beau gosse, sensuel. Et Ben Stiller, qui est quand même un grand comique.
Bah, évidemment.
Voilà. Et ben, moi, je ne savais pas.
Richard Darbois sur Danny Glover et Harrison Ford, ça n'a un peu rien à voir.
Ou le génie d'Aladin.
Évidemment. C'est
la
mythique.
Voix officielle aussi d'énergie, hein, oui. Richard Darbois.
Avec voilà. Donald Renew, ils sont deux.
Oui. Mais oui, tout à fait.
Qui est valdoisien?
Ah bon?
Mais oui, bah, oui. Si, 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 il est pas
il
loin.
Il est valdoisien, ouais. Il est pas loin du tout.
Je vais venir nous faire des voix, du coup.
Voilà, donc tout ça pour dire que moi je ne savais pas que c'était cet acteur-là qui doublait à la fois Brad Pitt et Ben Stiller. Donc j'invite maintenant tous les auditeurs à écouter ces deux acteurs en français et voilà, de savourer le jeu de ce grand comédien Damien Witeka.
Eh ben super, merci beaucoup pour cette info sympathique. Insolite.
Bah en tout cas en lien avec notre invité du jour,
voilà, qui prête sa voix pour plein de personnages de dessins animés, mais pas que. Il y a eu aussi pas mal de séries, de films. Ça représente combien de voix à peu près, Sauvane?
Honnêtement, je sais pas du tout. Vraiment aucune idée.
Au début tu les comptais, mais après
elles comptent plus.
Bah en fait, quand j'étais petite, c'était un jeu plus pour moi, donc c'était pas. J'ai jamais vraiment compté ça. J'ai jamais fait de plan de carrière en vrai. En vrai, c'était, je crois que c'est ce que disait Sonia tout à l'heure hors antenne, c'est une capacité d'émerveillement qui fait qu'on est voilà toujours très heureux de faire ce métier et qu'on prend chaque enregistrement comme une chance et comme un cadeau, même quand il est petit. D'abord parce qu'on sait que c'est un métier qui est très éphémère et très difficile, donc quand on a la chance de le faire, ben on mesure notre chance. En tout cas, moi c'est mon cas, donc j'ai pas compté, mais je profite.
En tout cas, derrière tout ça, tu t'es développé, tu as enregistré des chansons aussi. Bon, tu as attendu longtemps quand même avant de faire des chansons. On l'a dit, tu fais partie de l'Union nationale des auteurs et compositeurs. Oui. Donc ça, c'est l'UNAC.
C'est l'UNAC.
Secrétaire générale adjointe, hein, plus précisément au sein de l'UNAC.
C'est ça.
Formatrice, adaptatrice.
Oui.
Mais aussi, il y a un podcast qui a été créé dernièrement qui s'appelle Parlons Chansons. Et c'est mettre en lumière pas forcément que des chanteurs, ça, c'est des artistes en tout cas qui travaillent dans le milieu de la chanson.
Oui, alors en fait j'interview, ça, c'est une fois par mois, j'interview des personnalités en lien avec la variété française, que ce soit des chanteurs, des auteurs, et en fait l'idée c'est de prendre des gens qui ont quand même une certaine visibilité déjà, d'abord pour connaître leur parcours, la bande son de leur vie en chanson francophone exclusivement, parce que c'est mon axe. Et à la fin de chaque émission, leur demander de mettre eux en lumière des artistes qui n'auraient pas la faveur des algorithmes, pour qu'on découvre des gens qu'on ne découvre pas forcément habituellement. Donc, s'en est suivi une playlist qui est sur toutes les plateformes qui s'appelle La Playlist PLAIT, trait d'union liste LISTE, La Playlist by Providence. Providence Prod étant le nom de ma structure. Donc il y a cette playlist qui existe et qui met en lumière des artistes qu'on connaît peu. Le podcast une fois par mois, mon dernier invité étant Brice Homs, magnifique parolier pour Michel Fugain, Daniel Lavoie, Florent Pagny, voilà, et actuellement vice-président du conseil d'administration de la SACEM et président de son conseil pour l'innovation. Je crois que j'ai tout dit. Et qu'est-ce que je voulais finir en disant que voilà, de cette aventure est née l'envie de recréer des ponts, de recréer du lien, de donner de la valeur à la musique. Et en janvier, je lance avec ma structure un collectif d'artistes. Ça va donc s'appeler l'Expérience Providence. On sera 14 à défendre chacun nos projets individuels, mais à le faire ensemble pour voir comment ça se passe quand on est ensemble et jusqu'où on est capable d'aller quand on travaille à plusieurs. Voilà.
Et
il y aura des artistes formidables que j'ai hâte de vous faire découvrir si vous me laissez l'occasion de le faire.
Donc à suivre sur sauvannedelanoë.com, sur le compte Instagram éventuellement.
Sauvannedelanoë.com, providenceprod.com qui sera donc qui est le site de ma structure, et sinon sur les réseaux sociaux, Sauvannedé sur Instagram et providenceprod aussi sur Instagram. Voilà,
on écoute très rapidement
tout ça.
Cette voix, Sauvanne.
Je ne voulais pas descendre avant que Tom soit parti. J'ai honte, je sais plus où me mettre.
Ah oui, à cause de quoi?
Quoi, il vous a rien dit?
Donc ça, c'est une scène qui est issue de la série Desperate Housewives.
Desperate Housewives, bien sûr.
Là aussi, tu as prêté ta voix.
Oui, à une comédienne qui s'appelle Marla Sokolov, que je doublais avant dans une série qui s'appelait Practice, The Practice, Donnell et Associés.
Eh ben, merci beaucoup. On arrive au terme de l'émission. Il nous reste 40 secondes. Merci beaucoup à Sonia de venir co-animer la matinale du vendredi, le duo du vendredi, Sonia et Christophe. À très vite.
Merci beaucoup de votre accueil.
Puisqu'on est voisins en Guin, à Chanteuil, c'est pas très, très loin.